Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
Le 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, le standard d'Europe 1. Nous parlons ce soir du harcèlement scolaire. Les parents de la jeune Lindsay qui s'est suicidée le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais demandent des comptes. Ils déposent 4 plaintes contre la direction du collège, contre l'académie de Lille, contre la police et contre Facebook, car ça s'est aussi joué sur les réseaux sociaux. Nous sommes justement avec Justine Atlan, directrice d'e-enfance, association de protection de l'enfance sur Internet. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, il parle ce soir d'un échec collectif. Nous avons également entendu tout à l'heure sur Europe 1 l'avocat de la famille de l'INSEE. Pour lui, la défaillance est totale. Cet enfant n'a pas été protégé, n'a pas été écouté. Je dis cet enfant, mais les parents également, hein, ils avaient porté plainte cette dernière semaine. La jeune l'INSEE avait aussi écrit une lettre il y a des semaines à l'académie. Elle alertait sur sa situation et le directeur de son établissement n'a, semble-t-il, pas pris cela suffisamment au sérieux. Sérieux, hein.
Écoutez, en tout cas, on a des éléments comme vous un peu désordonnés quand même, avec des prises de parole diverses et variées, mais il semblerait en tout cas qu'il y a effectivement une conjonction de défaillances à plusieurs endroits en même temps qui malheureusement mène à ce drame absolument terrifiant, hein, parce que vraiment on est tous face à une forme d'impuissance de se dire comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi évidemment à éviter de mettre un enfant dans une situation telle de désarroi qu'il en arrive à commettre cet acte.
Alors, dans le cas de l'INSEE, l'établissement dit avoir exclu hein, la principale instigatrice du harcèlement. Elle a été changée d'établissement, mais ça a continué sur les réseaux sociaux. Et c'est ça la nouvelle donne aujourd'hui, c'est que exclure les instigateurs ne suffit pas.
En tout cas, les exclure uniquement de l'école ne suffit pas. Parce qu'effectivement, on le voit qu'aujourd'hui, dès le collège, en fait, malheureusement, quand il y a des phénomènes de harcèlement entre élèves, donc entre personnes qui se connaissent, hein, et forcément, il y a un prolongement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que les jeunes sont équipés très tôt par leurs parents, dès même la fin du primaire, en smartphone et en outils pour se connecter aux réseaux sociaux. À 80%, ils montent sur leurs âges et se connectent avant l'âge de 13 ans. Donc, ça fait énormément de jeunes qui vont utiliser, malheureusement, effectivement, ces outils numériques pour prolonger un harcèlement. Et donc, la victime, elle n'a plus d'endroit pour se réfugier et arrêter, puisque même chez elle, même à la maison, même le week-end, même le soir, elle est poursuivie par ces agissements dramatiques. Et puis, en plus, qui, comme vous l'avez vu, contiennent vraiment des menaces, des incitations, effectivement, à mettre fin à leur jour.
Voilà, c'est ça, comme si les écrans nous déshumanisaient, comme si on se défoulait sur Internet de façon encore plus violente qu'au collège, en fait. Hein.
C'est vrai que le problème des écrans, c'est que ça met à distance la victime, on ne la voit pas, on ne voit pas comment elle réagit à ce qu'on lui dit. Donc effectivement, ça peut pousser certains à aller bien au-delà de ce qu'ils feraient s'ils étaient en présence de la victime, hein, et à effectivement avoir un côté très désinhibé qui va s'autoriser à poster des choses, à les envoyer, à se moquer, à dire des choses effectivement dramatiques et de façon totalement répétée et avec un sentiment d'impunité qui pour l'instant, il est vrai, laisse apparaître effectivement sur les réseaux sociaux puisqu'ils ont le sentiment qu'ils vont pouvoir continuer ces comportements sans jamais être reconnus et sanctionnés par les adultes alors qu'à l'école, ils ont quand même une forme d'appréhension quand même à être pris sur le fait de ces agissements dont ils savent parfaitement que c'est interdit et évidemment et que c'est malveillant.
Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Justine Atlan, après l'affaire l'INSEE ? On exclut les harceleurs du collège, du lycée, hein, de l'école primaire aussi, parce que ça existe aussi à l'école primaire le harcèlement, et on les exclut des réseaux sociaux, ça il faut aller plus loin, Justine Atlan.
C'est vrai que souvent, en fait, ce que les jeunes nous disent, c'est qu'effectivement, les exclures de l'école, du collège, du lycée, ça fait partie des solutions qui sont plus ou moins satisfaisantes d'ailleurs, mais qui existent. Mais néanmoins, ils continuent effectivement d'agir sur les réseaux. Donc, il faudrait qu'en face, sur les réseaux, ils aient le sentiment que là aussi, finalement, les mêmes règles sont appliquées et qu'il soit possible d'être exclu provisoirement ou en tout cas pendant un certain nombre de jours, de semaines, de mois sur les réseaux sociaux qu'on a pu utiliser pour avoir ces comportements malveillants. Sinon, ça laisse à penser aux jeunes, ça continue de leur laisser à penser qu'Internet serait une zone de non-droit où finalement les règles ne s'appliqueraient pas comme ailleurs.
Et vous l'avez également rappelé, hein, Justine Atlan, vous êtes directrice, je le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent, directrice de l'association e-enfance. Il y a aussi la responsabilité des parents, hein, qui mettent entre les mains de leurs enfants des smartphones de plus en plus tôt. On va continuer d'en parler parce qu'il y a aussi la responsabilité des réseaux sociaux. Et puis, il y a des auditeurs d'Europe 1 Soir qui nous appellent au standard d'Europe 1 pour nous raconter leurs divers témoignages. Je pense notamment à Christophe qui nous appelle d'Île-de-France au 01 80 20 39 21. Le standard d'Europe 1 est ouvert et vous écoute et vous fait passer à l'antenne. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
01 80 20 39 21, le standard d'Europe 1 pour parler avec nous ce soir du harcèlement scolaire. Nous sommes avec Justine Atlan, directrice de l'association e-enfance. Christophe nous appelle au standard d'Europe 1, il nous appelle d'Île-de-France. Bonsoir Christophe.
Bonsoir, merci à vous de me donner la parole. Et si vous me permettez, je voudrais exprimer d'abord toutes mes condoléances à la famille de l'INSEE. Cette histoire résonne de façon dramatique par rapport à ce qu'on peut vivre en ce moment dans ma famille.
Oui.
Et franchement, je me demande comment un pays comme la France développée peut en arriver là avec des situations qui sont vraiment terribles. Je lisais en me rendant à l'hôpital des choses qui me marquent profondément et je ne comprends pas en fait.
Alors vous êtes rendu à l'hôpital parce que je crois que vous avez une jeune fille hein, qui y est.
Tout à fait. Alors en fait, notre histoire, c'est une histoire, je pense, qui a l'air malheureusement banale. Ma fille, depuis le début de l'année, donc, a commencé à se refermer sur elle, à perdre du poids. Alors, c'est vrai qu'au départ, on savait pas trop ce qui se passait. C'est difficile, je pense, d'en parler. Et au bout d'un moment, elle nous a expliqué qu'elle vivait de l'exclusion de personnes qu'elle connaît très bien, hein, puisque c'était des amis à elle, à la base. Donc, suite à ça, moi, j'ai demandé un rendez-vous avec la proviseure de l'école. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils allaient lancer donc le fameux processus phare. Mmh. Et là où je suis en colère, c'est que en fait, maintenant ça fait plusieurs mois que ce processus a été lancé, il ne s'est jamais terminé. Et il y a eu pour moi beaucoup de manque de compétences, peut-être de manque de moyens aussi, c'est possible. Hein. J'ai trouvé des gens qui à la base étaient relativement à l'écoute, mais en fait derrière, il ne s'est rien passé du tout. Et malheureusement, aujourd'hui, ma fille est hospitalisée depuis 2 semaines et ça risque de durer pour un bon moment suite à cette situation-là. Donc voilà, je suis un papa en colère et je témoigne parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation-là et il faut absolument que les pouvoirs publics agissent parce que c'est absolument anormal.
Vous avez raison hein, de venir vous exprimer ce soir. Nous sommes avec Justine Atlan, directrice de l'association e-enfance qui connaît parfaitement ce sujet. Je vais lui donner la parole dans quelques secondes. Effectivement, hein, ça, c'est un cas qui se reproduit de plus en plus en France. Hein, on est passé de 4% d'élèves touchés par le harcèlement en 2015 à 9% en 2018. Ça, c'est le dernier rapport remis en 2021. À l'époque, c'était à Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 800 000 et 1 million d'élèves, 800 000 et 1 million d'élèves victimes de harcèlement à l'école. Justine Atlan.
Oui, bah c'est vrai que c'est d'abord effectivement, je ne peux que comprendre la colère de ce père qui s'exprime aujourd'hui. C'est vrai que nous sur le
Christophe qui on l'a entendu ne semble pas avoir été entendu hein, par
oui, bah c'est souvent souvent ce que les familles nous disent. Tout à fait, oui, c'est ce que les familles nous disent souvent sur le 38. C'est en tout cas le sentiment qu'elles ont, c'est de pas être entendu. Pour autant, Christophe dit qu'il a été écouté, mais qu'effectivement, il a le sentiment qu'il y avait un manque de moyens. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans son témoignage. Donc, pas forcément une manque de volonté des établissements. Majoritairement, hein, c'est quand même des gens qui ont choisi des métiers pédagogiques au service des enfants et des adolescents et qui sont plutôt désarmés face à cette situation. Ouais. Donc, c'est sans doute effectivement un manque de temps.
Des enseignants se disent mal armés, mal formés face au harcèlement scolaire. Ils disent voilà. Notamment avoir du mal à le détecter.
Oui, sans doute. C'est souvent ça, en fait, qui témoigne. C'est une difficulté à identifier de façon très claire. Hein, mais ça, on retrouve ça par rapport à d'autres violences en général dans la société. Hein. C'est ce moment, vous savez, où on doute. On se dit, est-ce que c'est bien ça ou est-ce que ça l'est pas? Est-ce que j'interviens ou pas? Et puis, si j'interviens, comment je fais? Enfin, voilà. C'est-à-dire que c'est pas forcément une mauvaise volonté. Au contraire, c'est des gens qui se posent des questions, mais trop peut-être, et tellement qu'ils n'agissent pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 10 ans hein, sur le sujet au niveau de l'éducation nationale, mais évidemment, manifestement, c'est pas suffisant. Donc, il faut encore continuer ce travail au long cours, hein, de vraiment de former absolument tous les personnels, pas que les professeurs, les CPE, les infirmières scolaires, les gens des cantines, les gens de partout, enfin, tous ces voilà cette communauté éducative qui est dans l'établissement scolaire, qui voit plein de petits signes à plein de moments différents dans la journée, et que si ensemble ils parlaient d'un élève, peut-être se rendraient compte plus rapidement, effectivement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, parce que c'est vrai que c'est incompréhensible, et ça je pense qu'on a tous ce sentiment-là, hein, de se dire comment se fait-il que dans un établissement qui est encadré par des adultes, on arrive à laisser certains enfants faire mal à d'autres enfants sans que ces victimes puissent être protégées. C'est inimaginable, les parents sont obligés de confier leurs enfants X heures par jour à des établissements scolaires, à d'autres adultes, et donc effectivement ils ont l'impression que ces adultes sont défaillants. Donc encore une fois, c'est pas nécessairement vrai, mais c'est un sentiment, et donc il y a vraiment des progrès à faire, parce que c'est vrai que les témoignages, évidemment, qui sont toujours négatifs, ce qui se passe bien, on n'en parle pas, vont toujours dans ce sens-là. Donc il y a un manque de temps, un manque de formation initiale, continue. Et puis c'est vrai qu'il faut enfoncer le clou tous les jours, partout, dans tous les établissements scolaires. C'est un travail qu'on doit tous faire ensemble, évidemment. Et puis vous parliez des réseaux sociaux, hein, qui évidemment aujourd'hui font partie de la vie de tous les adolescents et qui ont évidemment un rôle à jouer aussi à côté de l'école.
Alors Christophe voulait ajouter quelque chose, il est encore en ligne avec nous. Oui. Christophe, nous vous écoutons.
Tout à fait, je voulais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, la détection, je conçois que c'est difficile maintenant pour ce qui nous concerne. Ma fille allait tous les jours à l'infirmerie de l'école, donc ça c'est quand même un signe d'alarme qui n'a pas été décelé ou en tout cas pas reporté. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que au bout de 3 semaines, il y a eu des constats avérés, hein, effectivement, de harcèlement. Et en fait, moi j'ai posé une question toute bête à un moment, c'est est-ce que les parents de ces 3 filles ont été alertés? Et ben en fait, la réponse a été non. C'est quand même un béaba parce que l'éducation, ça commence par les parents. Et en fait, je vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais il y a énormément de manque de compétences, en fait.
Oui.
Oui, c'est vrai que ça fait partie aussi des remontées hein, de beaucoup de familles, effectivement, c'est d'avoir le sentiment que finalement les parents de la victime sont eux, évidemment, en première ligne, très préoccupés.
Être parent de harceleur, c'est pas comme être parent de harceleur, je mets des guillemets évidemment à tout ça,
il y a
une forme de déni, on a du mal à concevoir que son fils ou sa fille harcèle d'autres enfants, on fasse du mal, hein.
Oui, bien sûr, ça c'est un phénomène naturel, hein. On n'envisage jamais son enfant comme auteur de violence, mais plutôt comme victime. Pour autant, il y a beaucoup plus de parents d'auteurs ou de témoins que de victimes, parce que heureusement les victimes sont quand même minoritaires, mais ça veut dire que dans l'éducation qu'on donne tous à nos enfants, il faut impérativement qu'on les éduque à ne pas participer à ces phénomènes-là, effectivement, à ne pas les commettre, et avec l'idée de la responsabilité qu'ils ont si par malheur ils s'y engagent. Et c'est vrai que n'éduquer nos enfants que comme des victimes potentielles, ça veut dire complètement oublier qu'ils peuvent à certains moments être auteurs, et c'est notre responsabilité de le faire. Et évidemment, il faut que les établissements scolaires, comme d'autres lieux d'accueil d'enfants, soient capables aussi d'alerter les parents d'auteurs. Mais il faut reconnaître que les parents d'auteurs, comme vous le dites, sont parfois dans le déni, ou parfois même vraiment pas du tout soutenants avec la communauté éducative, et vont plutôt protéger leur enfant auteur. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué à gérer aussi, mais c'est une situation qu'il faut effectivement prendre à bras-le-corps. Le monsieur a tout à fait raison.
Merci d'ailleurs à Christophe de nous avoir appelé ce soir, d'avoir pris le courage hein, de nous raconter sa situation personnelle qui n'est pas évidente. On pense à lui et à sa jeune fille qui est à l'hôpital à 14 ans, car victime de harcèlement. On va entendre Laura maintenant, qui nous appelle au 01 80 20 39 21. Elle a 40 ans et vit à Orléans. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Alors vous avez vécu le harcèlement hein, pendant votre jeunesse.
Oui, alors moi j'ai la chance qu'il n'y avait pas les réseaux à cette époque-là, parce que je dis vraiment la chance, parce que ça a été quelque chose de très très dur, moi ça m'affecte encore aujourd'hui, je manque de confiance en moi, au travail c'est très très compliqué, moi dès que j'ai une personne qui commence à m'embêter, je démissionne, hein, clairement, j'ai pas la force en fait d'affronter ça, le problème c'est qu'on l'emmène avec nous, moi franchement j'ai toutes mes condoléances pour la famille de l'INSEE, parce que je suis mère moi-même, perdre un enfant c'est... J'imagine pas dans des conditions pareilles. Enfin, voilà. La réaction de Christophe, mais je l'encourage. Mais c'est bien, c'est merveilleux d'avoir pris en main sa fille. Il faut qu'il l'accompagne, mais c'est pour toute sa vie. Parce que le problème, c'est que. Alors oui, il y a un problème éducatif, mais moi, ce que j'ai constaté, parce que je viens d'un petit village du sud de la France où tout le monde connaît tout le monde, hein, donc les réseaux sociaux, c'était ça à notre époque, hein, enfin à la mienne en tout cas. Et Et il y a un problème éducatif, parce que le problème, c'est que moi je parle de mes bourreaux. Moi, j'ai dû présenter mes excuses à mes bourreaux parce que c'était des enfants de notables. Et c'était inconcevable que cette pauvre petite fille adorable fasse ça. Moi, j'ai dû... Enfin, voilà. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas d'explication. Je saurai jamais. Et tant pis, ça voilà. Mais je suis outrée, moi, que ça continue, que ça existe. Et moi, j'ai une anecdote, c'est que ma fille, quand elle était à la maternelle, un jour, elle revient, elle me dit, on s'est moqué de cette petite fille. Et je lui hurlais dessus, je lui dis mais c'est hors de question de faire ça, c'est interdit, tu n'as pas le droit de faire ça, alors à partir d'aujourd'hui tu la défends, tu ne t'en moques plus. Mmh. Et derrière elles étaient devenues amies et elle n'a jamais recommencé. Mmh. Et le problème, moi je dis de ces bourreaux, c'est que les parents font pareil dans leur vie, dans leur milieu de travail, et c'est ça, enfin, et je pense qu'il y a un vrai problème de société, comme disait madame, il n'y a pas de prise en charge, il y a pas, c'est pas encadré ou trop. Mmh. Après, moi je vois dans le collège de ma fille, c'est des extrêmes, mais ils ont l'avantage d'essayer, voilà. Mais moi, je c'est quelque chose, je suis tellement blessée, je le traîne avec moi, j'ai des projets, des complexes, j'ai fait de l'anorexie, j'ai fait de la boulimie, mmh. et aujourd'hui, je ne suis pas guérie. Je ne suis pas capable d'affronter ces gens-là aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir pris le courage de témoigner ce soir, chère Laura. On était heureux de vous écouter. Ça a servi à d'autres auditeurs, hein, de vous avoir entendu ce soir vous nous raconter votre expérience. Merci également à Justine Atlan, directrice de l'association e-enfance. Vous savez, c'est le 30-18. Hein. N'hésitez pas à appeler si vous êtes victime de cyberharcèlement. Il y a aussi le 30-20 si vous êtes victime ou famille de victime de harcèlement scolaire. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur toutes ces questions. Le standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21 vous donne la parole comme ça tous les soirs sur Europe 1. Dans quelques instants, nous retournons à Roland-Garros, car Europe 1, c'est aussi la radio officielle du Grand Chelem parisien de tennis. A tout de suite.